Un petit tour au jardin. Une émission présentée par l'association Jardin Nature Pibrac.
Bonjour et bienvenue pour ce 22e numéro de Un petit tour au jardin. Aujourd'hui, nous parlerons de la reproduction des plantes.
Dans nos jardins et nos vergers, nous avons la possibilité de multiplier nos plantes suivant trois types de reproduction. Une reproduction sexuée, c'est celle des plantes à fleurs, qui s'appelle la pollinisation. Puis, il y a la reproduction asexuée. Une nouvelle plante pousse à partir d'une partie de la plante mère. C'est la multiplication végétative sans qu'il y ait production de graines ou de spores. C'est le cas des bulbes comme l'ail, les oignons, les tulipes. De nouveaux bulbes poussent sur le plateau du bulbe principal. Les plants de pommes de terre se reproduisent à l'aide de tubercules. Les iris se reproduisent à l'aide de rhizomes. Ces tiges poussent latéralement le long du sol ou juste en dessous de la surface. Les fraisiers se reproduisent à l'aide de stolons. Ils ressemblent à des branches qui poussent sur le sol. Et enfin, il y a la reproduction par fragmentation, bien connue sous le terme de bouture par les jardiniers.
Nous parlerons aujourd'hui plus spécifiquement de la reproduction des plantes à fleurs. Et pour commencer, un petit rappel sur la pollinisation.
Oui, les fleurs ont des organes reproducteurs mâles appelés étamines et des organes reproducteurs femelles appelés pistils. L'anthère est la partie de l'étamine qui contient le pollen. Ce pollen doit être déplacé vers une partie du pistil qui s'appelle le stigmate pour fertiliser l'ovule qui s'y trouve. Les plantes peuvent se reproduire par autopollinisation, le pollen d'une plante féconde ses propres ovules, ou par pollinisation croisée, le pollen d'une plante fertilise les ovules d'une autre plante. L'avantage de la pollinisation croisée est qu'elle favorise la diversité génétique.
Et dans ce cas, il faut transporter le pollen d'une fleur à l'autre.
Dans nos jardins, la pollinisation peut être faite par les insectes, abeilles, papillons ou coléoptères, et par le vent. Dans d'autres milieux, cette pollinisation peut être assurée par l'eau, pour les plantes aquatiques, par des oiseaux, comme les colibris, et même certains mammifères, comme les chauves-souris et les rongeurs. Les pollinisateurs sont souvent attirés par les couleurs et le parfum des fleurs. Le pollen se colle au corps du pollinisateur pendant qu'il se nourrit du nectar de la fleur. Les fleurs ne sont pas toutes grandes et de couleur vive. Certaines plantes à fleurs, comme les graminées, ont des fleurs minuscules et peuvent même être vertes, ce qui peut les rendre difficiles à voir.
Et l'étape qui suit alors la pollinisation se nomme la fécondation ?
Oui, une fois qu'il atteint le pistil, le pollen doit fertiliser un œuf à l'intérieur du stigmate. La fertilisation produit des fruits qui contiennent des graines. Certains fruits sont charnus, comme les tomates ou les pommes, d'autres secs, comme les glands ou les noix. Ces fruits représentent une nourriture pour divers animaux. Après avoir digéré les fruits, les déchets de leur système digestif contiennent des graines encore intactes qui peuvent prendre racine et pousser loin des plantes qui les ont produites.
Et donc, nous obtenons des graines.
Les graines produites par la fertilisation contiennent le matériel génétique des deux parents. En conséquence, la descendance n'est pas génétiquement identique aux parents, mais leur ressemble souvent. Depuis l'apparition des premières plantes, les ovules, une fois fécondées, entrent immédiatement en dormance. Les graines sont incapables de germer à maturité, car leur germination est bloquée. De plus, elles sont enrobées d'une cuticule qui les protège et limite l'évaporation.
Les graines sont donc en attente.
Oui, tout à fait. Les conditions de levée de dormance se sont complexifiées avec l'évolution des plantes. Lorsque les premières graines sont apparues, il suffisait qu'elles tombent au sol dans un peu d'humidité pour germer. Mais petit à petit, au cours de l'évolution, des conditions supplémentaires ou particulières se sont installées. Du fait de cette complexification, aujourd'hui, chaque espèce a ses propres critères de levée de dormance.
Mais alors, que faut-il pour les réveiller ?
Pour lever la dormance d'une graine, des réactions chimiques doivent se produire. Humidité, température, luminosité, déterminée, agissent sur la production des hormones végétales qui vont déclencher le réveil. Chaque espèce végétale possède ses propres exigences. Par exemple, le blé d'hiver peut germer à 5 degrés, alors que le haricot a besoin de 15 degrés. Il y a des plantes dont la levée de dormance va être générée par les nitrates, d'autres par les nitrites ou le monoxyde d'azote. De plus, certaines graines ne peuvent germer et percer leur cuticule qu'après avoir subi un froid intense. C'est la vernalisation ou stratification. Après avoir subi un passage dans le tube digestif d'un animal ou après avoir subi une dégradation de leur cuticule externe par un acide, un passage dans les flammes, etc.
Mais une fois la dormance levée, que se passe-t-il ?
Alors, la germination commence lorsque la graine se réveille. Elle est le processus par lequel un organisme se développe lorsque les conditions extérieures deviennent favorables. La germination désigne la reprise du développement et du métabolisme d'un embryon contenu dans la graine jusqu'à émergence d'une radicule.
Cet embryon possède donc en lui toutes les réserves nécessaires à son développement.
Oui, le pouvoir germinatif varie beaucoup selon l'espèce et les conditions du milieu. Il persiste de quelques jours à plusieurs siècles. C'est grâce à ces réserves qu'il va ainsi pouvoir émettre à la fois ses nouvelles racines et une tige porteuse des premières feuilles. La première à sortir de la graine, c'est la radicule, poussant vers le bas. C'est la forme embryonnaire de la racine principale d'une plante. Au-dessus de la radicule se trouve la tige, qui porte les cotylédons, qui sont les premières feuilles chargées de divers types de réserves, protéines, lipides et sucres. Lorsque les cotylédons sont soulevés au-dessus du sol, la germination est dite épigée, comme pour le haricot. Lorsqu'il reste sous terre, elle est dite hypogée, comme pour le maïs. Et avec les premières feuilles, la photosynthèse peut commencer et la plantule se nourrir.
Bien. Des nouvelles de l'association Jardin Nature Pibrac ?
Nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet jardinnaturepibrac.org pour y retrouver toutes les dates de nos conférences et ateliers.
Merci.
Merci. Et à la semaine prochaine pour un autre petit tour au jardin.